Cette année 2018 est marquée en République tchèque et en Slovaquie par une série de célébrations à l'occasion du centenaire de la fondation de l'État commun à la Tchécoslovaquie. Une des étapes importantes vers la création de cet nouvel État indépendant a été la signature de l'accord de Pittsburgh. C'était le 30 mai 1918, un texte qui consacrait la volonté des deux peuples de s'unir au sein d'une même entité étatique. Pierre Maignan revient sur cette étape donc importante de l'histoire tchécoslovaque.
Chapitre de l'histoire.
Organisée dans le cadre des festivités du centenaire, l'exposition tchéco-slovaque Slovako-Tchèque a été ouverte au public le 27 avril dernier au château de Bratislava. Elle y sera visible jusqu'au début du mois de septembre avant de rejoindre Prague où elle sera officiellement inaugurée le 28 octobre, le jour de la fête nationale anniversaire de l'indépendance de la République tchécoslovaque. L'exposition présente un grand nombre de documents originaux marquants pour l'histoire des deux peuples et au nombre desquels figure le fameux accord de Pittsburgh. Ce texte rappelle que pendant la Première Guerre mondiale, une partie du sort des Tchèques et des Slovaques, et d'une certaine façon de l'Empire austro-hongrois dont ils faisaient alors partie, s'est jouée de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Au début du conflit, il s'y trouverait alors plus d'un million d'émigrés tchèques et slovaques, une communauté active et organisée, comme le notait pour la télévision tchèque l'historien František Hanzlík.
Nos compatriotes ont provoqué les choses car quand débute la guerre, naît le comité d'aide tchécoslave dont le but est de rassembler des fonds et d'assurer une aide pour les Tchèques et les Slovaques dans le besoin aussi bien en Autriche-Hongrie que pour ceux en captivité. Dans le même temps est également fondé le comité tchéco-américain pour l'indépendance et l'aide à la nation tchèque, dont les objectifs n'étaient d'abord pas l'indépendance. On ne parlait pas encore d'un État indépendant, mais il s'agissait plutôt d'acquérir de l'autonomie et au minimum au sein de l'Autriche-Hongrie.
Au début du conflit mondial, personne ou presque n'imagine le démantèlement possible de l'Empire austro-hongrois, engagé contre les puissances de la Triple Entente aux côtés de l'Allemagne et de l'Empire ottoman. Depuis le 19e siècle, les militants du nationalisme tchèque fondent davantage leur espoir sur une autonomie renforcée, voire sur la fédéralisation de l'Autriche-Hongrie. Alors que dès 1914, des volontaires tchèques quittent l'armée austro-hongroise pour s'engager du côté de l'ennemi, en nombre encore certes limité, l'idée d'une union des Tchèques et des Slovaques, et pourquoi pas d'un État indépendant, fait son bonhomme de chemin aux États-Unis, František Hanzlík.
À Chicago et à New York, nos compatriotes ont joué un rôle clé. Et il a alors été question d'un État indépendant pour les nations tchèques et slovaques, tandis que Tomáš Garrigue Masaryk était reconnu sans conteste comme la personnalité à la tête de cette résistance à l'étranger. À Chicago, il y a eu d'énormes manifestations rassemblant plusieurs milliers de personnes en soutien à la nation tchèque à sa manière. La Ligue slovaque a également soutenu l'activité de ces émigrés et à l'automne 1915 a été signé l'accord de Cleveland où les organisations d'émigrés les plus significatives, l'Association nationale tchèque et la Ligue slovaque, s'entendent pour agir en commun en faveur d'un État indépendant. Il y a encore une organisation qui joue un rôle important, l'Association nationale des catholiques tchèque. Au cours de l'année 1917, toutes ces organisations se sont rassemblées sous la direction du Conseil national tchécoslovaque.
Très proches de par la langue et la culture, les Tchèques et les Slovaques ne semblaient pourtant pas forcément destinés à se rassembler. Les premiers ont longtemps disposé de leur propre État et leur territoire est déjà relativement industrialisé. Les seconds, dont le pays est plus rural, ont presque toujours été dominés politiquement par les Hongrois voisins. D'après l'historien Antoine Marès, un tournant s'opère entre la fin de l'année 1917 et le début de l'année suivante, à l'époque où sont organisées les légions tchécoslovaques, quand la perspective de la disparition de l'Autriche-Hongrie devient de plus en plus réaliste. Il expliquait sur nos ondes.
Je dirais qu'il y avait un intérêt géostratégique partagé. à l'union entre les Tchèques et les Slovaques. Les Slovaques étaient très isolés. Quelles étaient les possibilités théoriques qui se présentaient à eux? Soit ils restaient dans le cadre de la Hongrie, soit, c'est une idée qui est apparue chez certains communistes, la Slovaquie devenait une république soviétique, mais ça c'est possible encore, on peut l'envisager au début de l'année 1919, et puis il y a le reflux qui se produit à partir de l'été 19, de la vague communiste en Europe centrale. L'autre hypothèse qui a été par la suite développée chez certains Slovaques, ça aurait été une union avec les Polonais, mais de toute évidence, le passé récent, les liens tissés avec Prague faisaient que la réunion entre Tchèques et Slovaques était la plus naturelle à cette époque.
30 mai 1918, zišli sa v Pittsburghu.
Le 30 mai 1918, le Conseil national tchécoslovaque se réunit sous la présidence de Tomáš Garrigue Masaryk à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les représentants tchèques et slovaques y entérinent la réunion de leur peuple à travers un accord en 6 points. Le premier reconnaît l'objectif politique de parvenir à la constitution d'un État commun des Tchèques et des Slovaques. Il y est dit aussi que cet État sera démocratique et prendra la forme d'une république. Décision importante car jusqu'alors, certains étaient partisans d'une monarchie constitutionnelle sur le modèle britannique. Avec cet accord, c'est le modèle états-unien qui semble l'emporter. Par ailleurs, 2 articles garantissent une grande autonomie à l'entité slovaque qui devra disposer de sa propre administration et de son propre parlement et dont la langue sera celle de l'enseignement et des autorités. Journaliste en pays tchèque durant la Première Guerre mondiale, partisan du rapprochement tchécoslovaque, le journaliste Anton Štefánek, devenu parlementaire tchécoslovaque dans l'entre-deux-guerres, revenait en 1938 à la radio tchécoslovaque sur les attentes de ses compatriotes slovaques 20 ans plus tôt.
Les Slovaques américains s'imaginaient initialement l'organisation politique de la Tchécoslovaquie libre selon le modèle américain des États-Unis de l'Amérique du Nord. Les Tchèques, les Moraves et les Silésiens devaient être unis aux Slovaques de façon fédérative et dans l'autonomie.
L'idée de fédéralisation, claire lors de l'accord de Cleveland, s'éloigne pourtant avec celui de Pittsburgh, où se dessinent les traits d'un État unitaire, bien que garantissant une grande autonomie à sa partie slovaque. C'est cette seconde option qui va l'emporter, et dans une forme encore plus décevante pour les Slovaques désireux de disposer d'une forme d'autonomie. Quelques mois plus tard, c'est encore sur le sol américain, avec la déclaration de Washington, signée le 18 octobre 1918 par Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik et Edvard Beneš, qu'est proclamée l'indépendance de la nation tchécoslovaque.